Salut, c'est Pastèque. Je suis Pasturo, le paste de Pastèque. À mes côtés se tient le Hec. Oui. Il est belge. Il a 4 millions de follicules pileux sur la tête.
Oui.
Dieu lui a donné à lui la part qu'il avait pour nous deux. C'est Alex Vizorek.
Bonjour, Tanguy Pasturo. Ça va parler cheveux aujourd'hui.
Exactement. Et nous sommes avec Lulu qui a aussi beaucoup de cheveux.
Oui,
bonjour, Lulu.
Bonjour.
Lulu va relayer tous vos messages et vos questions sur Twitch, bien sûr. Et au programme aujourd'hui, on fait un tour d'horizon de l'actu de la semaine. Il y aura notre revue de presse. Nous allons recevoir Thomas Poitvin,
voilà,
qui pendant le confinement a eu la riche idée de mettre des perruques et de créer des personnages sur Instagram.
Exactement.
Moi aussi, je mets des perruques souvent, mais ça n'a jamais été filmé au motif que je porte que ça. Enfin, les gens sont tellement coincés.
Ça vous va très bien.
Oui, mais tout de suite.
Mais tout de suite, le top de l'actu.
Tanguy Pasturo et Alex Vizorek sur France Inter, c'est Pastèque.
Le top de l'actu, Tanguy, on commence par une actu à vous.
Oui, alors elle est intitulée, c'est dans le Progrès, le journal Le Progrès, elle est intitulée « Oise, une automobiliste ivre roule pendant 2 km sur la voie ferrée ». Voilà, alors c'était une dame qui a 57 ans, c'était samedi soir, sur la voie ferrée entre Amiens et Paris, au niveau de la commune de Saint-Just, en Chaussée, dans l'Oise. Cette dame n'a pas réalisé, en fait, tout simplement qu'elle était sur les voies, donc elle se disait que cette voiture...
Elle s'en est pas rendu compte.
Non, pas du tout, elle a roulé quand même 2 km. Et ça devait taper, hein, parce que je veux dire, hein, ouais, sur une voie ferrée,
mais c'est pas fait pour.
Non, on est quand même pas très à l'aise.
Non, non.
Il y a des trous, quoi. Oui. On n'est pas bien. Et cette dame s'est aperçue de rien. C'est le conducteur de train qui a donné l'alerte. Alors bien sûr, pourvu de l'expérience à fond, ensuite elle s'est syndiquée à Sudrail, hein, dans sa voiture. Elle a réussi à se connecter sur le site. Elle a respecté un retard de plus de 2 heures, hein, bien sûr.
Ah,
elle est arrivée à Saint-Just en Chaussée avec 2 heures de retard. Mais je trouve toujours ça, vous voyez, assez magique. Quand ils l'ont trouvée, elle était quasiment endormie en fait à son volant. Elle s'est posée là, quoi.
Ce qui est une l'ivresse.
Et vous savez, moi, j'ai grandi en Bretagne. Non, mais il n'y avait pas un lundi sans qu'on lise dans l'Ouest-France, enfin, dans l'actu du week-end, en fait, le nombre de gens qui prennent la voie express à contresens, en fait, en Bretagne, c'est incroyable. C'est-à-dire, il y en a 10 par week-end, vraiment. Il y a plus de gens à contresens. D'ailleurs, je pense que tout le monde se met à contresens. C'est-à-dire que si vous allez dans le sens normal, c'est un vrai danger. Et moi, c'est pour ça que moi j'aime bien ces histoires de gens ivres qui font n'importe quoi. Alors, bien sûr, l'ivresse est une impasse. Mais surtout là, quand on se retrouve quand même...
Alors, question à vous deux, est-ce que vous êtes heureux?
Globalement, ça va. Lulu a pas l'air bien,
ouais,
par contre.
Ça, c'est les jeunes, ils sont dans le marasme permanent.
Bah, vous savez, le jeune de 2021 se pose des questions, vous avez vu la vie qui mène?
Oui, c'est pas faux.
Bah, bien sûr, chômage, Covid, fin de la planète, c'est un peu dur d'être bien. Hein.
Oui, un petit peu.
Voilà, nous on a déjà vécu une
Eh bien, nous faisons partie de la majorité, Tanguy Pasturo, puisque 80% des Français se sont déclarés heureux. Et donc 4 sur 10 se disent très heureux. 4 Français sur 10, très heureux.
Oui.
Quand on voit tous les politiques là, qui disent non, le Français souffre et tout. Alors,
exactement.
Vrai, bien sûr qu'il souffre, le Français.
Exactement.
Aussi. Mais quand on lui demande, au fond, il se dit très heureux.
Mais oui, bien sûr.
Et vous m'avez surpris, amis Français, par votre positivité. Mmh. Et ça m'a touché beaucoup. Donc je me dis, allez, on annule la présidentielle, on met Patrick Sébastien.
Vous savez, le problème de ça, je crois que c'est, on est en train de se défrancialiser, en fait. C'est les effets de la mondialisation. C'est-à-dire qu'on perd vraiment notre caractère
ce mal-être.
On est en train de le perdre.
Vous êtes heureux, les pastèques? Qu'est-ce qu'on a? Courage à nous et Lulu. Alors, il y a quelqu'un qui est aussi malheureux que vous. Lulu.
Julien Hypertex nous dit « Nous sommes très heureux d'être malheureux ».
Ça, c'est beau. Ça, c'est beau.
Une forme de... Oui.
Nous avons des philosophes. Est-ce que
c'est une forme
pas
de philosophie?
Très Schopenhauerien, ça.
Ah.
Et
je connais
vous pas
savez pourquoi j'ai dit ça? Parce que je sais qu'aucun de vous deux va me reprendre.
Non.
Non, parce que
et je me suis dit, ça fait chic de dire ça.
La chope fleurie.
Mais vous voyez, ça fait genre le mec qui sait, alors qu'en fait, il ne sait rien.
Voilà. Hein,
et savoir que je ne sais pas.
Votre propos,
disait Jean Gabin.
Votre propos est très lacanien.
Oui. Et ben voilà. Deuxième info pour vous.
Alors, insolite, en allant aux toilettes, il se fait mordre le pénis par un cobra. Voilà, horreur en Afrique du Sud.
Quand on dit le top de l'actu, ça veut pas dire vraiment, ça veut pas dire les fonds de tiroir que personne n'a pris.
Ce ne sont pas des fonds. Moi, vous savez, je repose sur mes fondamentaux, c'est-à-dire pénis, alcool et chat. Vous aurez tout à l'heure, j'ai une actu sur les chats.
Donc, alors, qu'est-ce qui est arrivé en Afrique
du Sud?
Ça, c'est malheureux.
Ah ben, c'est vraiment triste. Il y a un homme aux toilettes qui s'est fait mordre le pénis et les testicules par un cobra. Voilà, alors qu'il qu'il était assis sur les toilettes. Il était en excursion safari. C'est un Néerlandais en Afrique du Sud, donc il a eu de la chance.
Le cobra est sorti comme ça.
Voilà, il est sorti de la cuvette. Bon, il aurait pu tomber sur un lion, hein, qui aurait été. Le reptile est sorti du fond de la cuvette. Ça devait pas être sa senteur de canard WC préférée, donc ça l'a rendu fou de rage. Il s'est accroché aux testicules et au pénis de ce monsieur, et la morsure de ce cobra a quand même entraîné la nécrose du pénis. Voilà, la nécrose du pénis de la personne.
Il y a des gens qui sont en train de préparer à manger.
Oui, mais c'est
pas
grave.
Il y a des gens qui vont dîner.
Mais il est trop tard, il est trop tôt.
Et vous leur parlez de nécrose du pénis.
Oui, nécrose du pénis. Alors, ce qui est une bonne excuse qu'on n'a pas envie de faire l'amour, hein. Par exemple, voilà, c'est autre chose que la migraine, hein. Dire à son conjoint ou sa conjointe, écoute, j'ai le pénis nécrosé. Voilà.
Oui, ben oui.
On rassure tout le monde. La personne a eu des soins chirurgicaux. Son organe s'était enflé et viré au violet, nous dit-on. Maintenant, il est redevenu rose. Donc, tout va bien. Couleur d'origine.
Comment va le cobra?
Ah, le cobra, on ne sait pas. Et je pense qu'il est assez traumatisé par cette expérience, à vrai dire.
Alors, à moi?
Oui.
Donc, est-ce que vous connaissez la série Netflix You?
Oui.
Oui. Sur un espèce de pervers narcissique à moitié psycho, non?
Alors, ça, je ne sais pas du tout le fond.
Ah bon, d'accord.
Mais elle existe. Elle existe, d'accord. Elle s'appelle You. Et ça veut donc dire vous.
Ou toi.
Ou toi.
Si on s'entend bien.
Et donc, sur Fox News, il y avait un débat sur la culture du wokisme.
Oh!
C'est le CNews.
Oui, oui.
Et il y a quelqu'un qui fait, enfin, le journaliste, le spécialiste, Alpag, la présentatrice. Il dit, j'étais en train de regarder un épisode de You où il était question de rougeole. Mais, donc il lui dit, en fait, en gros, j'étais en train de regarder un épisode de Vous où il était question de rougeole. Elle ne comprend pas.
D'accord.
Parce qu'elle est étonnée, elle dit, à quel moment j'ai parlé de rougeole? Et lui, il dit, peu importe, c'était vous. Il dit, c'était You. La fille, ça lui passe à travers, elle dit, mais j'ai jamais eu la rougeole. Et l'autre, il lui dit, mais non, Laura, c'est un épisode de la série. Et là, elle hallucine, elle dit, mais comment s'appelle la série? Il dit, vous. J'ai jamais fait de série. Elle dit,
mais elle est un peu con quand même, non?
Oui,
d'accord.
Mais c'est tellement sincère et tellement bien. Et puis, on sent qu'il s'énerve. Et il dit, mais non, c'est une série qui s'appelle Vous. Sur Netflix. Et elle m'a répondu,
je ne suis pas Netflix.
Quoi? Il y a une série qui s'appelle Laura sur Netflix.
Mais non.
Je vous jure. Et j'ai le son. Mais il fallait que je vous l'explique avant parce que sinon, ça ne marche pas parce que c'est très compliqué à voir.
Donc on va l'entendre?
Oui, je savais pas comment on disait rougeole en anglais.
Rougeole.
Non, c'est un mot très compliqué. Mais donc vous allez entendre. Et franchement, c'est la scène du dîner de con.
Écoutons.
You know, I was watching an episode of You where measles came up.
Wait, when did I mention measles?
I don't know. It was on You.
What was on me? What are you talking about? Right? Is Raymond even hearing what I'm saying? I never had the measles.
What's on You?
We never did a measles and vaccine episode. Is this a joke?
I know.
I don't even know what you're talking about.
It was on You. It was on You.
I've never had, Raymond, I've never had measles. What are you talking about? This is stupid.
It was an episode of a show, Laura.
Well, what's it called?
You. You. It's called You.
I've never done a show on measles. I just completely give up. We got to get out.
It's a show called You on Netflix.
There's a show called Laura Ingraham on Netflix.
Never mind.
About?
I'm moving on to Adele. I can't explain this to you. The pop
about?
Singer.
Et là, il dit, j'en ai marre, je vais parler d'Adele parce que vous comprenez.
Ceci dit, le type, quand il voit aussi que la personne ne comprend rien, ne fait rien pour lui expliquer, hein. Il continue à dire, you.
Non, il lui dit, c'est un épisode de la série.
Oui, après. Mais il l'a laissé quand même assez longtemps mariner, quoi, je trouve.
Mais ça fait
c'est peut-être une manière de couler sa collègue en termes de prendre sa place. Vous savez comment marche la télé, hein. C'est exactement comme ça.
Alors, pour le coup, dans le chat, on me dit, The Geek Family dit, ils ont avoué que c'était scripté du début à la fin.
Non.
Oh là, je suis déçu. Eh ben ça, c'est bien qu'on le dise.
Non, mais c'est pas possible.
En même temps, c'était très gaulerie. Allez, à vous, Tanguy.
Allez, ma troisième info, la dernière. Une étude prouve que votre chat a un super pouvoir. Il sait toujours où vous êtes. Voilà. Alors, quel que soit le chat, c'est scientifique. Même si vous n'êtes pas visible de votre chat, il a, figurez-vous, dans la tête, une carte mentale pour arriver à vous situer partout où vous êtes. Donc, si vous avez une maîtresse, votre chat le sait. Si vous avez tué quelqu'un, votre chat le sait. Si vous avez tué votre maîtresse, il vous regarde d'un air très fâché, hein, presque culpabilisateur. Le chat, en fait, c'est une sorte de GPS qui a des poils et qui qui pue. Donc je trouve ça assez incroyable comme info. Voilà, le chat a un super pouvoir. Il en cela, il dépasse de beaucoup le chien. Et je sais que vous avez une passion pour les chats parce que vous avez présenté combien de magazines sur les chats ?
Combien ?
Et le chat est un animal toujours plus fascinant parce qu'en fait, les Égyptiens avaient raison de le vénérer plutôt que la tique par exemple ou que le lézard vert. Parce que vraiment, quasiment chaque semaine qui passe, on apprend quelque chose de supplémentaire
vous,
par rapport au chat.
Vous en avez un, vous, là ?
Pas du tout, non. Moi j'ai un chien.
De peur qu'il sache où vous êtes.
Ah, exactement. Moi, mon chien, il me demande rien. Quand je suis à la maison, il est content. Quand je suis en dehors, il est triste. Voilà, c'est basique, quoi.
On parlera perruque après le disque, car nous allons recevoir Thomas Poitevin, la star des perruques sur Instagram, qui en a fait un spectacle. Mais avant ça, nous allons écouter un petit peu de musique. Qu'est-ce que vous nous proposez, Tanguy ?
Ah, je vous sors de ma poche Alexia Grédy avec Vertigo.
Je prends.
De la douceur de tes mots, j'ai gardé juste le meilleur. Pour mes erreurs, les jours de trop, je n'ai jamais été à l'heure. Si les messages et les rancœurs restent ancrés dans mes os, parfois je pleure en décalage. J'aime l'amour vertigo. Je suis passé par le banc. Patiente, jour après jour, j'en fais le tour. Pourquoi j'ai peur, je paraphrase. Pourquoi je pleure en décalage. J'aime l'amour vertigo.
Pasturo, Visorek, sur France Inter.
Vous êtes toujours sur France Inter dans Pastèque avec le paste Pasturo,
oui.
Et le mec Visorek. Oui. Et nous ne sommes plus tout seuls puisqu'il est avec nous, Thomas Poitevin. Bonjour.
Bonjour.
Mais
bonjour.
C'est vous les perruques de Thomas ?
Oui, c'est moi. Oui, tout
alors,
à fait.
Question que je pose très souvent pour faciliter la vie des auditeurs de France Inter. Si je dois vous présenter à ma mère, qu'est-ce que je lui explique ?
Que je joue des personnages en mettant des perruques sur un réseau social qui s'appelle Instagram.
Ça, c'était la genèse, parce que maintenant, vous le jouez sur scène, vous êtes au théâtre du Rond-Point avec les perruques de Thomas, ça cartonne. Vous avez donc choisi des personnages qui ont été cultes sur Instagram, vous en avez rajouté d'autres, vous avez dû théâtraliser la démarche pour pouvoir justement passer de nouveau à la scène, parce que vous venez de là et on racontera votre histoire juste après.
Oui, tout ça, avec Hélène François qui me met en scène et avec qui j'ai coécrit le spectacle, on avait fait un spectacle avant, bien avant de faire la chaîne, où je faisais des petits portraits comme ça, et là c'est le retour au théâtre. Ouais.
Dans vos influences, vous citez Valérie Lemercier, Muriel Robin, Claude Véga. Ça m'a fait bien plaisir parce qu'on en parle.
Non.
Vous pouvez pas qu'il
bah non, justement. Ah ouais, bah, grand humoriste ouais. des années 60, je dirais.
Grand 60-70, ouais.
Moi, je l'ai vu sur scène comme comédien.
Dans vous l'avez vu sur scène
théâtre, ouais.
Ah ouais.
Par contre, vous avez pas cité.
C'est mignon.
Et moi, c'est ce que vous m'avez fait penser, être un peu dans l'affiliation de Palmade, Lutz, Lambert, des gens comme ça. Eli Kaku même.
Christophe Lambert.
Jonathan Lambert.
Jonathan Lambert. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est en fait comme la première chose qui me vient quand on me demande, c'est les gens de mon enfance. Et les gens de mon enfance, c'était
Claude Vega, c'est pas possible.
C'était des gens un peu d'une génération avant.
Vous l'aviez en VHS.
Les cassettes. Ah, et puis j'étais dans ce qu'aimaient mes parents en fait. Mm.
Oui, il y a Jacqueline Maillan qui revient.
Et Jacqueline Maillan qui était une espèce de doudou pour moi quand j'étais petit.
On écoute un extrait de votre chaîne Instagram pour que les gens vous découvrent s'ils ne vous connaissent pas déjà.
4 chambres, 2 bureaux, 3 salles de bain. Alors accrochez-vous, Marie-Ange, un beau window, Malé Stevens, en l'état. Je pense à vous. Bah, dès que j'ai de l'art déco, je vous appelle. C'est pas compliqué, l'immeuble est signé. Bah, sinon, à quoi je sers? Alors en plus, Marie-Ange, la chance appelle la chance parce qu'on est en dessous des prix du marché. Hein. Ils sont très très pressés. C'est une grande famille de Guadeloupéens très sympa. Ils rentrent dans les dômes. Ah oui, ils sont noirs. Ah ok. Puis-je vous demander la raison de ce refroidissement, Marie-Ange? Parce que vous cherchez bien dans le sixième, on est d'accord? C'était sur ma fiche, j'aurais fait une boulette. D'accord, parce que je vous cache pas que le art déco, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Puis je vais compléter ma fiche, il n'y a pas de raison. Je les ai toujours sur moi, donc... Terrasse sud, si possible, ok. Cinquième, septième, on rajoute le huitième. Parfait. Alors, à côté de votre prénom, Marie-Ange, je rajoute grosse raciste, comme ça on a toutes les infos. Oui, vous avez bien entendu, Marie-Ange. Voilà, c'est ça. Bon vent. Allez, allez chercher un logement au Troisième Reich. Je pense qu'ils ont de la place pour vous. Allez, ciao, connasse.
Alors, moi, je tiens à dire quand même que ce sketch est discriminatoire envers les personnes racistes. Et voilà, je me demande d'où vient cette haine, en fait, contre les gens qui eux-mêmes ont un peu de haine. Enfin, je trouve que c'est un jugement un peu hâtif. Mais voilà.
Vous avez raison. Oh là, il y a du Muriel Robin, clairement.
Oui. Ouais. Ben oui, c'est vrai.
Que j'allais dire, c'est un de vos personnages fétiches.
Ouais, Hélène Saint-Guy qui a une agence immobilière qui s'appelle Saint-Sulpice Prestigimo. Donc elle s'occupe de biens de prestige. Et voilà, là elle commence à... C'est à la fin d'une longue journée pour elle. Elle est au Monop, je crois, pendant le sketch. Et elle est déjà excédée par autre chose. Et là, son antiracisme... qui était latent jusque-là. Ouais.
C'est touchant.
Elle se lâche, quoi.
C'est touchant parce qu'on ne l'imagine pas de ce côté-là.
Non, on l'imagine plutôt raciste, Hélène Saint-Guy.
Non, ouais. Enfin, on n'imagine plutôt... pas les gens racistes, parce que nous ne sommes pas comme ça, nous n'avons pas de préjugés. On est sur France Inter ici, mon bonhomme.
Ouais, okay. Hein.
Je peux dire quelque chose,
oui,
Alex?
Dites-le.
Parce que quand on a annoncé en fait, que c'est vous qui veniez, j'ai eu plein de messages de gens, en fait, d'amis, donc je n'ai pas non plus énormément d'amis, hein, mais bon, des connaissances, qui m'ont dit, ah bah oui, pendant le confinement, effectivement, j'étais à fond sur lui, ça m'a fait du bien pendant le confinement, parce que c'est vrai qu'on a vu beaucoup les stars de la chanson, par exemple, qui jouaient de la gratte comme ça dans leur salle de bain, c'était Patrick Bruel, Raphaël, etc. Exactement. Raphaël qui a eu des soucis avec sa conjointe d'ailleurs. Mais voilà, et on n'a pas beaucoup parlé des gens qui créaient à ce moment-là. Et vous, votre compte Instagram, il a quand même sorti beaucoup de gens de la morosité, quoi, à ce moment-là, et ça a été important pour eux, quoi.
Ouais, et puis moi
vous,
aussi. Ça
vous
va,
mesurez ça, quoi.
Oui,
ce qui s'est passé à ce moment-là.
Puis,
quoi.
Je mesure aussi de mon côté. Moi, ça a été très joyeux de parler à tous ces gens, quoi. Ça m'a sorti de l'isolement, ça m'a fait créer des choses que j'aurais pas forcément créées.
Vous étiez où à ce moment-là? Seul dans un petit appartement chez vous?
J'étais dans mon petit foyer, oui. dans le 12e, et puis mais je suis comme beaucoup de monde, j'ai perdu du travail à ce moment-là, et puis c'était quand même choquant ce premier confinement, quoique je me suis surpris à avoir une espèce de petite nostalgie nauséabonde du premier confinement.
Bien sûr.
Ça pourrait revenir, rassurez-vous.
Non, mais un truc cocon et grande aventure, un truc, on sèche les cours, enfin un truc...
Finalement, c'est un des rares trucs qu'on vivait tous ensemble, au même moment.
Et ce truc humain de tous vivre un truc en même temps.
C'est ça.
Et puis d'essayer de s'attraper tous les uns les autres, c'était quand même le... Les réseaux sociaux ont
s'attraper.
Été s'attraper
oui, d'accord.
Par la
connexion, virtuelle, par la connexion,
la connexion.
Voilà. Oui, parce que.
Mais il y a eu un vrai avant et un après, c'est-à-dire que vous ramiez avant. Un petit peu, vous étiez pas sûr de vous. Vous êtes dit peut-être, je vais jamais faire ce métier comme j'ai envie de le faire.
Ouais. Alors moi, en fait, j'ai créé la page Instagram en me disant, j'arrête d'être acteur et je vais devenir auteur-réalisateur.
Ce qui est pas mal aussi, déjà.
J'arrête d'être acteur, voilà. Je vais devenir artiste.
Voilà.
Maintenant, on arrête.
Je vais devenir superstar. Et...
Je commençais à transitionner vers ça et à le faire un peu sérieusement, à me dire, voilà, c'est mon grand projet, machin. Et j'avais quand même envie de garder un petit espace d'acteur.
Comment vous arrêtez le choix des personnages? Comment vous mettez le doigt dessus? Parce que c'est ça aussi qui a renouvelé le genre. C'est un genre qui existe, à mon avis, depuis l'Antiquité, de faire des personnages. Mais ici, vous choisissez des personnages dans leur époque.
Moi, j'aime les personnages... Les gens qui me font rire, ce sont des gens qui me touchent. Et généralement, ils me touchent parce qu'ils sont en difficulté ou qui sont un peu, voilà, pas très à l'aise avec la vie. Donc, mais ils essayent quand même, quoi, de parler à quelqu'un ou de faire ce qu'ils ont à faire. Donc, c'est grosso modo le
c'est vrai qu'ils ont tous quelque chose. Ils ont tous quelque chose. On a envie de les prendre dans les bras, en disant ça va aller.
Ouais, ça va aller.
Il y a une malheureuse directrice de théâtre
qui craque vraiment pendant le spectacle,
qui ne comprend pas ce que veut faire la compagnie et qui essaye de remettre les choses en place. Et c'est très 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 drôle. Quiz Tanguy.
Alors oui, parce que vous savez, nous sommes l'émission des quiz. Il y a, on a 124 quiz au choix qu'on fait tourner. Thomas Poitevin, il y avait samedi dernier dans 20 minutes un article qui vous était consacré. Il disait que vous viviez un conte de fées, entre guillemets, grâce au confinement. Alors ici, on se dit, oui, ok, le type vit une super vie grâce à une pandémie mondiale. Bon, pourquoi pas. Mais on s'est dit qu'on allait quand même vous faire un petit questionnaire pour savoir à quel point, en vrai de vrai, vous étiez un type cynique. D'accord? On y va? Allez, attention. Thomas Poitevin, pendant cette crise sanitaire, est-ce que vous avez acheté des actions Pfizer?
Non.
Non. Est-ce que vous avez demandé à votre voisine infirmière d'aller vivre ailleurs le temps du confinement?
Non, pas du tout. Non, j'avais dit quelque chose à un voisin parce qu'il mettait ses courses à l'extérieur et ça m'avait agacé. Bon, oui. Bref, n'importe
quoi. Il faisait pas rentrer ses produits chez lui.
Ouais.
Il y a beaucoup de gens qui étaient comme ça.
Mais il les mettait pas exactement devant sa porte, donc.
Plutôt dans la vôtre.
Je suis pas cynique, mais je suis mesquin.
Ouais, d'accord. Non,
mais il mettait ses sacs partout dans le couloir. Donc,
ouais, c'est insupportable. Attention, Thomas Poitevin, est-ce que vous avez fait des fausses attestations dérogatoires de sortie pour aller prendre l'apéritif chez des amis?
Non.
Même pas?
Non.
Mais vous avez eu un comportement exemplaire.
Ouais.
Est-ce que vous avez déguisé un enfant en chien pour avoir le droit de le sortir?
Non. Je reviens justement sur à quel point ça a changé votre vie, parce qu'aujourd'hui vous êtes un des plus recommandés théâtres parisiens, qu'est le théâtre du Rond-Point, en matière d'humour en tout cas. Comment vous conseilleriez aux gens qui, comme vous, ont envie de faire ce métier d'acteur, d'utiliser les réseaux sociaux? Parce qu'au final, il paraît que vous n'êtes pas non plus une star d'Instagram. Hugo nous expliquait que partager une story, c'était pas votre grand délire. Ça vous demandait.
Hugo a vendu le...
Hugo a vendu, mais il disait, c'est fou de se dire que grâce à Instagram, au fond, vous avez lancé vraiment une carrière ou relancé une carrière. Et qu'au fond, c'est pas vraiment votre lieu de prédilection. Vous avez 41 ans comme moi, donc vous êtes pas non plus cette génération-là.
Ouais.
Comment vous diriez à ceux qui souhaiteraient d'utiliser les réseaux?
J'ai aucune idée, parce que moi-même je sais pas, je suis pas doué pour les utiliser, mais de faire quelque chose qui leur ressemble et ce qui m'a aidé, en fait, le confinement m'a aidé pour ça m'a aidé à être constant.
Régulier.
Devoir fournir un peu de contenu régulièrement.
Voilà. Ouais. Et je pense que c'est ça qui a lié la sauce, quoi.
Mm.
Mais comment utiliser les réseaux? Moi-même, j'ai mis 3 jours là à comprendre le
ouais.
Swipe up.
Ouais, le swipe up. Mm. Ouais,
j'ai dû faire 2-3 recherches Google pour comprendre
pourquoi
ce que ça veut
dire. Instagram, alors, plutôt qu'un autre réseau, c'est celui qui vous paraissait le plus adapté à ce que vous faites?
Ça me paraissait être le plus facile, c'est joli, et puis, Au tout début, quand je me suis attelé à ce projet de réseau social, j'ai un peu regardé tous les réseaux sociaux, et c'est vraiment le monde des bisounours, un peu, Instagram.
Oui.
C'est un peu un monde de gentillesse.
C'est bienveillant.
Et d'avocat de toast, quoi. Par rapport à d'autres réseaux sociaux,
qui
un
sont
peu.
Plus, oui. Ah, ouais, on est plus dans le guerrier, oui.
Twitter, ouais.
Ouais, ouais.
Plus dans le sang.
Oui, c'est vrai,
Eh bien, on incite les pastèques à vous rejoindre sur les perruques de Thomas. Est-ce que les pastèques ont des dernières choses à nous dire ou? Nous allons laisser notre
appelez-moi Dieu.
Pour le moment, il y en a un qui nous réclame une imitation de De Gaulle après l'imitation de Mitterrand.
Sur Mitterrand, faut pas me chercher.
À ça de partir.
Vous savez faire des imitations?
Non, très mal. Très mal.
Voilà, moi aussi. Ouais. Et je m'y risquerai pas parce que ce serait ridicule.
En fin de soirée, Eddie Mitchell. Confondant. C'est confondant.
Eddie Mitchell, c'est pas facile ça.
Non, mais je, en fin de soirée.
Allez,
en fin de soirée.
Non, allez, on s'en fout, on est tout seul. Allez.
Non, non.
Ah bon, d'accord.
Si vous le faites, je fais Barbara. C'est ma imitation.
Allez, go.
Choisissez-moi une chanson de Didi.
La route de Memphis, là.
La route de Memphis. Slow down Memphis.
C'est confondant.
Bah oui.
C'est confondant.
C'est minable. Et bah voilà, ma minable, c'est Barbara. Alors, attends. Voilà. Allez. Bonne journée.
C'est vraiment France Inter, c'est plus du tout ce que c'était.
Non, non.
C'est vraiment
non,
là, c'est une catastrophe.
Du temps de Jacques Chancel.
Ça serait pas arrivé.
On n'imitait pas.
Je suis désolé. On est deux à avoir fait l'imitation. Les deux autres. Ah ben non, démerdez-vous. Choisissez n'importe qui, mais on veut une imitation.
Mais je fais justement que Mitterrand à l'époque du bébé de chaud, donc c'est assez embêtant.
Quand Clou a peur, non.
Allez, je le fais, mais c'est
allez,
vraiment.
Non, il y va.
C'est vraiment Mitterrand imité par Rocasse en 82, quoi. Appelez-moi Dieu. Bonsoir. Voilà. Bonjour Jorek. Comment ça se passe?
Voilà. Adieu, c'est une fin de carrière. Mais je suis content d'avoir terminé là-dessus. Je pense
vous
que c'est
pas
mal.
On rit. Faut faire un spectacle avec que ça.
Que des émissions. Gérardin, essaye et ça marche pas. Hein.
Ah, non,
ça fonctionne pas.
Merci infiniment, Thomas Poitrin,
merci,
de passer nous voir.
Merci.
Et ceux qui n'y sont pas allés, foncez jusqu'au 28 novembre et puis en tournée, les perruques de Thomas au rond-point.
Et on rappelle le compte Instagram.
Et les perruques. De perruques de Thomas.
Merci.
On va écouter un disque et après, on va faire notre mythique revue de presse. Parce que je pense que les gens aussi, ils sont là pour ça. Ils veulent savoir ce qui vous a intéressé dans la presse. On m'a dit que vous aviez lu du Gala, il y a du Point. Moi, j'ai lu Schnock. Ah. Mais ça, c'est après le disque. Après, Mac Miller qui nous chante.
Yeah.
Yeah. When will we die? This life isn't fair. I miss the high. I live a lie. Will die, no one will care. Take me inside, I'll meet you there. Vous êtes toujours sur France Inter et sur Twitch, si vous nous retrouvez sur la chaîne Twitch de France Inter. Mmh. Et donc là, c'est l'heure, Tanguy, de notre célébrissime revue de presse.
France Inter le samedi soir, Pastureau Vizorek, c'est Pastèque. Pastèque.
Et nous allons commencer, je crois, Alex, par le point que vous tenez dans vos mains délicates.
Et oui, j'aime le point. Je fais le point.
Qu'est-ce que vous avez noté dans le point? Parce qu'on a eu une lecture peut-être alors, parallèle, mais on n'a pas trouvé la même chose.
Moi, je l'ai mis en parallèle avec Le Parisien, car on parle énormément de la bromance.
Ah, entre qui et qui?
Entre deux anciens présidents.
Ah d'accord, dites-moi.
Nicolas Sarkozy, enfin ancien, il y en a un qui l'est toujours, entre Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron.
Ils s'aiment beaucoup ?
Ils s'aiment beaucoup, d'accord. Et apparemment, Darmanin dit, pour Macron, déjeuner avec Sarkozy, c'est comme jouer avec Platini pour qui aimerait le football.
Ah, carrément.
Ah oui, oui. D'accord. Il y a une petite admiration. Il trouve ça super d'aller déjeuner avec Sarkozy. Si Pompidou était vivant, il irait avec Pompidou. Mais
oui, bien sûr. C'est comme bien ça. Sûr.
Et à mon avis, même avec Mitterrand, en connaissant le, parce qu'il est ni de gauche ni de droite, hein, au fond, cet homme-là.
Oui, c'est vrai.
C'est ce qu'il nous a dit. Ouais. Tout a commencé par une main. Je vous lis comme c'est dans le point.
Hein. Allez-y.
Tout a commencé par une main, celle d'Emmanuel Macron posée sur le genou de Nicolas Sarkozy en mars 2019 lors d'une cérémonie d'hommage au maquisard tombé au Glière. Là, je vous raconte des choses d'histoire que je ne comprends pas. C'est noué entre eux une relation aussi dense que surprenante, nous dit le point. Et alors, il y a deux, trois anecdotes qui sont racontées et qui sont assez amusantes.
Par exemple,
Agnès Buzyn.
Oui, je me souviens d'Agnès Buzyn,
de cette
Agnès grande... Buzyn, la pauvre.
Agnès Buzyn, virgule, la pauvre. Eh bien, elle était donc ministre de la Santé. Juste avant le Covid, elle s'est dit ce qui serait bien, c'est que peut-être j'aille faire la mairie de Paris. Parce que notre ami, on se souvient, tout ça est parti de notre ami Griveaux.
C'est vrai. Hein,
qui s'était montré un peu trop dénudé sur les meilleurs internets.
Le malheureux.
Le malheureux.
Il y a beaucoup de gens qui ont souffert, hein, quand même.
Le pauvre. Et donc, Agnès Buzyn critique pour la mairie de Paris, critique un peu la politique sécuritaire de Sarkozy, enfin critique d'Ati, mais donc indirectement la critique Sarkozy, qui n'est pas du tout content, et qui appelle son nouveau meilleur ami, Macron, en disant « Mais qu'est-ce qu'elle fait, l'emmerdeuse, là, pourquoi est-ce qu'elle me critique ?»
D'accord.
Et donc, Macron appelle Agnès et lui dit « Écoute, ce serait bien que t'appelles Nicolas pour un petit peu calmer le jeu. » Et c'est là qu'on découvre un Nicolas Sarkozy extrêmement sympathique, généreux, avec les gens, empathique. Vraiment la personne qu'on a envie d'aimer. Elle l'appelle, elle dit « Bonjour Monsieur Sarkozy ». Lui répond « Pardon, je ne crois pas que nous ayons gardé les bovins ensemble, c'est Monsieur le Président ».
Il a raison, il y a un moment, il faut savoir se placer.
Alors on voit tout de suite qu'on a affaire à quelqu'un de généreux.
Oui.
Buzyn bafouille et tente de corriger le tir. Bien sûr, je vous appelais pour vous dire que je comprends votre agacement. Il l'interrompt. Non, je ne crois pas que vous voyez. Si vous voulez que je sorte la sulfateuse, je peux la sortir. Elle ne sait plus comment s'en dépêtrer. Oui, mais vous êtes un homme politique chevronné, machin, hein, pourquoi? Et lui répond... Ah pourquoi? Vous voulez dire que je suis vieux, c'est ça? Vous êtes médecin, c'est bien ça, que je sache? Vous n'allez pas laisser une trace formidable au ministère de la Santé? Alors le sujet de la sécurité, je vous prie de laisser ça aux professionnels. Parce que si vous voulez que je vous donne des leçons de sécurité, je vais m'y mettre. Donc on a un Sarkozy très à l'écoute.
Alors j'ai lu Ici Paris, qui est un magazine, on peut le dire, assez moyen. Mais Sophie Marceau nous livre eh bien ses secrets de beauté. Alors, parce que tout à l'heure, je vous disais qu'elle vieillissait pas. Alors, elle a un secret de beauté ultime, c'est qu'elle s'applique de l'huile d'olive pure sur le visage. Donc, il faut le savoir. Alors, ça, c'est assez simple. Vous achetez de l'huile d'olive et chplouf, vous le mettez en pleine gueule. C'est un peu comme on met sur les pizzas, vous savez, avec le pili-pili.
C'est une blague.
Sauf que, non, elle parle d'huile d'olive et quand elle veut se donner un petit coup de fouet, elle met de la vinaigrette. et parfois une ou deux feuilles de salade derrière les oreilles. Et il y a des gens qui essaient de la bouffer.
Il y a quelqu'un qui l'a fait tourner.
Voilà, c'est ça. Et là, Cyril Lignac arrive. Ça, bébé. Alors, sinon, bon, au niveau de la silhouette, Sophie Marceau nous dit que l'essentiel est de se sentir bien dans ses vêtements. Voilà, donc en gros, il suffit de prendre trois tailles au-dessus de celles qu'on fait en règle générale et puis tout va bien. Faut pas trop se prendre la tête, hein, en matière de beauté. Et sinon, à la maison, elle utilise des shampoings et des après-shampoings doux, de préférence à base de fruits. Voilà. Donc elle a à la fois elle a l'huile d'olive pour le visage, les fruits en fait pour les cheveux. C'est un véritable repas.
C'est un menu.
C'est un menu B12.
Il y a quelqu'un qui nous dit l'huile d'olive. Ma grand-mère faisait ça.
Et ben
ça
voilà.
Marche. Donc voilà.
C'est ça.
Hein, vous aimez les anecdotes sur les people?
Beaucoup.
Mais là, on est dans un autre niveau. Ah. Les anecdotes sur le dîner de cons. Car c'est
le
la
film.
Une de Schnock. Schnock, là, évidemment, Schnock, on peut toujours le conseiller.
Très chouette.
Le magazine Schnock. Et ils sont partis donc à la rencontre de tous les gens qui ont fait de près ou de loin le dîner de cons. Et il y a des trucs formidablement drôles parce que Francis Weber n'a plus de filtre.
Ah.
Et ah oui,
il ça veut dire qu'il a pris un petit peu d'âge.
Et donc, quant au film, parce que vous savez que c'est une pièce de théâtre au départ, jouée par Villeray et Brasseur entre 93 et 96, et dans le film de 98, c'est Thierry Lhermitte qui récupère le rôle,
qui est très bon,
qui est très très bon d'ailleurs. Et donc, que nous explique Weber, il voulait pas de Brasseur, ouvrez les guillemets, parce qu'il était cocaïnomane. Voilà. Alors, comme l'autre picolait, il s'est dit, un cocaïnoman plus un alcoolique, ça faisait beaucoup.
Qui était l'autre qui picolait?
Villeray.
Ah, il picolait.
Ah, ouais, ouais. Et donc, après, il continue en disant, et puis, ils étaient tous les deux dodus, olivâtres, avaient perdu leurs cheveux, il y en avait pas un qui était plus moche que l'autre.
Non.
Ah mais non, Weber,
c'est l'avantage de la star morte, c'est qu'elle va pas vous faire son point dans la tête.
Et donc, on avait choisi Thierry Lhermitte, dit-il, parce qu'il était beau à l'époque. Ah oui, non, il en a plus rien à caler. Et donc, dans la série, Weber se lâche, il parle de la chèvre aussi.
Ah, la chèvre, le film avec Pierre Richard et Gérard Depardieu.
Oui, et au départ, le duo annoncé, c'était Lino Ventura et Jacques Villeray.
D'accord.
Et Ventura voulait pas jouer avec Villeray, qu'il appelait l'acteur de la Loire, avec mépris. Et Weber d'expliquer de Ventura, il est con comme un balai, Ventura. Con et chiant. C'est bien de pouvoir le dire. Elle n'a plus rien à taper.
Ouais, c'est un peu...
Ah bah oui, c'est comme ça. Il le dit. À la place de Ventura, qui devait coproduire le film, c'est Pierre Richard. Donc, parce que ça devait être Ventura Richard, donc comme il voulait pas de Villeray. Et puis c'est Depardieu qui est devenu le Ventura annoncé. Bon, il va falloir qu'on s'arrête maintenant, Tanguy. Vous avez encore plein de choses à nous raconter. On garde certaines choses pour la semaine prochaine. Merci à vous pour cette revue de presse, pour cette émission Pastèque. Merci, Lulu.
Mais merci à vous deux.
Merci à vous deux.
Donc, jeudi,
oui,
sur la chaîne Twitch de France Inter.
Absolument, j'y serai.
De 13h à 15h.
C'est ça.
Et sinon, sur cette antenne, la semaine prochaine, à partir de 19h. Salut les Pastèques.
Salut, au revoir.